La force qui nous fait avancer, la sagesse qui nous éclaire, l'énergie qui nous soutient et la paix qui nous affermit, tout cela nous est donné par l'Éternel Dieu, qui connaît et aime chacun de nous inconditionnellement. Nous sommes rassemblés en ce dimanche, en présence ou à distance, pour laisser Dieu vivifier nos existences, pour le chanter, pour lui dire merci, pour ouvrir nos cœurs à sa présence d'amour. Le culte de ce dimanche a été préparé par la commission Église verte du foyer de l'âme, et quelques-uns de ses membres vont l'animer. Le mois de septembre est depuis 2015 un mois au cours duquel les églises chrétiennes sont invitées à se pencher particulièrement sur le thème de la création. Ce n'est pas non plus réservé au mois de septembre. C'est le pape François qui est à l'origine de cette initiative à laquelle se sont ralliées d'autres églises chrétiennes et des mouvements chrétiens et écologiques, dont Église verte. Église verte, vous le savez, c'est un label auquel participe le foyer de l'âme dans le souci du respect de la planète qui nous porte et le respect, le souci de la justice sociale. Et nous vous proposons aujourd'hui un culte sur le thème du sabbat, qui n'est pas complètement étranger au thème officiel de cette année de temps pour la création, qui est que la justice et la paix se répandent. Je vous invite à la prière pour nous présenter chacun et ensemble. Éternel notre Dieu, tu nous as promis ta présence. Tu as promis ton esprit. Alors notre premier mot est un Amen joyeux et confiant. En cette heure de culte, viens ancrer notre espérance, aérer nos esprits, aiguiser notre regard sur ce qui nous entoure et sur la création entière. Et viens ranimer entre nous la communion qui nous relie à toi, au Christ vivant et les uns aux autres. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous restons debout pour la louange dans laquelle le psaume 148 nous conduira. C'est Lionel qui va le dire.
Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous tous, ses anges, louez-le, vous tous, ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel. Car il a donné un ordre, et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné une règle qu'il ne violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête, exécuteurs de sa parole, montagnes et toutes collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté domine la terre et les cieux. Il a relevé la force de son peuple. Louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, le peuple qui lui est proche. Louez l'Éternel. Amen.
Et un autre psaume a chanté celui-ci, le psaume 19. Le ciel étincelant, et nous le chanterons en entier, les 4 strophes. Prenez place. Pour discerner la volonté de Dieu pour nos vies, pour l'entendre, je vous invite à écouter quelques versets du livre de la Genèse, au chapitre 1, les versets 26 à 28, puis du verset 31 du chapitre 1 au verset 3 du chapitre 2. Dieu dit : Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Plus loin, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Pour ce temps maintenant du culte qui est la prière de confession, eh bien, nous invitons à écouter une prière qui ne sera pas vraiment la nôtre, une prière que Jean Rault, l'écrivain, a écrite au nom de la terre dans un petit opuscule qu'il a publié récemment qui s'appelle « Shabbat, ma terre ». C'est un extrait de cette parole de terre que Pierre-Charles va maintenant nous dire.
Je sais, à vous voir évoluer, mais évoluer c'est beaucoup dire, que vos comportements n'ont pas changé depuis le haut néolithique. Vos ancêtres de guerre lasse, expression curieuse, quand vous vous lassez de tout sauf de la guerre, m'avaient concédé ce temps de pause dans les cultures. Ce temps de jachère que Dieu, lui-même, s'est accordé après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Ce temps de vacances qu'ont obtenu les travailleurs, non en compensation de leurs efforts, la course au profit n'a pas ce genre de pudeur, mais parce qu'on ne pouvait se passer de leurs bras. À mon tour, les bras m'en tombent, je demande à bénéficier des mêmes avantages, d'un congé annuel, sabbatique, que vous m'octroierez. Ce ne sera nullement par pitié pour mes forêts dévastées, mes sols épuisés, mon air empoisonné, mes océans saturés de vos rejets, mes nuages chargés de molécules de plastique. Oui, nous en sommes là. Mais pour vous-même, quand vos poumons brûlés, comme ceux d'un souffleur de verre, vous défilerez en procession, m'implorant de faire tomber la pluie, pareil à ces peuples primitifs dont vous moquiez la crédulité, brandissant des pancartes et reprenant en chœur les mêmes slogans. « Vacances pour la terre, repos la terre, Shabbat ma terre !»
Thank you.
Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce de la grâce à travers ces versets du livre du prophète Ésaïe. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ma fidélité envers toi ne s'éloignera point, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance au cantique 219, Dieu de lumière, esprit de vie. Nous prions avant d'ouvrir et de lire dans les Écritures. Dieu fidèle, tu nous appelles sans cesse, et ainsi nos vies ne s'endorment pas dans la routine ou dans l'indifférence. Par ton esprit, que ta parole réveille notre foi. Tiens-nous debout, vigilant dans l'écoute de ta parole et dans le service des vivants de la terre. Amen. Nous lirons ce matin dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 8 à 11. Il s'agit d'un extrait de ce qu'on appelle le Décalogue, les 10 paroles de vie. Avant, on disait les 10 commandements. Mais paroles de vie rendent mieux du sens de l'objectif, de la perspective de ces paroles. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Mais pourquoi parler du sabbat puisque ce n'est plus une pratique dans la quasi-totalité des églises chrétiennes? C'est le dimanche que nous nous rassemblons pour célébrer la résurrection, célébrer la fête de Pâques chaque dimanche. Cependant, dans bien des temples réformés, si vous avez un petit peu circulé en France, vous avez pu voir le décalogue, les 10 paroles de vie gravées dans le mur, en général d'un côté ou de l'autre de la chaire, bien visibles de l'assemblée. Eh bien, parce que le sens de ces 10 paroles n'est pas dépassé et que ce qu'elles portent à notre attention, à notre réflexion, nourrit encore la foi et l'existence. La parole sur le sabbat est la 4e du décalogue. Et vous l'avez entendu, elle élargit la dimension collective bien au-delà du peuple d'Israël à qui ces paroles sont adressées. Elle concerne, alors d'une part, les animaux domestiques, c'est-à-dire ceux sur lesquels les propriétaires de ces animaux ont une influence et une maîtrise, et d'autre part, les immigrés résidant dans la ville, ceux qui ne sont pas du peuple, mais qui réside là. Et puis vous avez aussi remarqué que le verbe qui supporte cette parole ne se rapporte pas tout de suite à un faire ou à ne pas faire, mais au souvenir. Souviens-toi du jour du sabbat. Comme si ce jour pouvait être oublié, et même facilement oublié. Tellement facilement, alors qu'il en va de la vie même, puisqu'il s'agit d'une des 10 paroles de vie pour la vie. Alors je vous invite à méditer ce matin 3 aspects particuliers de cette parole. La première concernant le fondement de cette parole sur le sabbat. La deuxième concernant plus particulièrement l'aspect du souvenir, mais ce souvenir de quoi en fait? Et puis la troisième qui portera sur l'élargissement que le sabbat introduit dans nos perspectives. Alors le fondement du sabbat, vous l'avez entendu, est clairement rappelé. Il s'enracine dans le 7e jour du récit de la création dans le livre de la Genèse. Création qui n'est pas une fabrication, mais un événement de parole qui donne sens à la vie de l'être humain dans le monde, un sens qui est alors compris avec des distinctions, avec du don de l'Éternel et avec une bénédiction. Nous l'avons entendu dans la parole qui a servi de texte pour la volonté de Dieu. Le 7e jour, l'Éternel se repose du travail qu'il a fait les 6 jours précédents. Il bénit ce jour et, selon les traductions, le consacre ou le sanctifie. Donc le 7e jour, Dieu s'arrête, il cesse d'œuvrer. Et parce que c'est le 7e jour, eh bien ce repos, c'est cela qui est le point culminant de la création. Ce n'est pas la création de l'humain, malgré la vocation qui est adressée aux humains de dominer la terre. Cette domination, il faut toujours le rappeler, ne consiste pas non plus à l'exercice d'un rapport de force sur la terre et sur l'ensemble des vivants, mais en un gouvernement orienté dans la bénédiction divine et qui permet à la vie de se déployer dans sa belle diversité. Le repos de Dieu, son retrait, engage l'humain créé à l'image de Dieu à en faire autant, c'est-à-dire à ne pas prendre toute la place, à ne pas investir tout le temps et tout l'espace de ses activités, mais de prendre un temps pour s'arrêter. Le repos du sabbat, inséré dans la bénédiction et dans la sanctification de ce jour, représente alors un temps pour se replacer, pour se reposer, se poser à nouveau dans la compréhension de la création où l'humain n'est pas propriétaire, mais en responsabilité de bonne gestion. Ce jour représente la faille, l'ouverture, l'interstice qui permet de voir la terre et tout ce qui s'y trouve, humain compris, à la lumière non du soleil, mais à la lumière de la parole créatrice de vie vivante. Alors le sabbat de la quatrième parole représente, à travers la cessation d'activité, un temps où l'humain prend du recul par rapport au tohu-bohu qui revient toujours envahir les jours et les esprits. Et le tohu-bohu, c'est cette accumulation où tout est mélangé et indistinct, où il n'y a pas de limite, pas de séparation, un amalgame, une précipitation, où est engloutie la capacité à prendre du recul, à discerner, à faire la part des choses, à choisir, et en particulier à choisir la bénédiction, le bon et la vie. Les humains n'ont-ils pas besoin de cet arrêt qui est un écart, une mise au large des accumulations effrénées, des flux multiples de communications de toutes sortes et des torrents d'injonctions qui déferlent sur nos jours? N'en avons-nous pas besoin pour reprendre pied dans notre existence singulière et notre vie commune, pour reprendre souffle dans une inspiration créatrice, pour prendre soin de notre âme, pour faire jouer notre liberté et notre responsabilité d'humain, pour nous poser à nouveau dans la bénédiction qui nous encourage. Le sabbat est le temps pour relancer la dynamique responsable, c'est-à-dire en réponse à notre vocation d'humain, et c'est le temps qui permet de trouver une forme à donner ensuite, les 6 autres jours, une forme à donner au « cela est bon, cela est très bon » que murmure inlassablement la parole créatrice au cœur de notre être. Car le sabbat, c'est le deuxième point, le sabbat est un temps pour l'avenir. Se souvenir du sabbat, c'est se souvenir de l'avenir. Nous n'avons pas à nous souvenir seulement de ce qui nous fonde. Pour le texte de l'Exode et la parole du sabbat, il s'agit en vérité d'une double fondation, le sabbat de l'Éternel, livre de la Genèse, et la libération de l'esclavage au début du livre de l'Exode. En effet, le prologue des 10 paroles, le prologue du décalogue, la parole qui tient les 10 autres paroles de vie, c'est celle qui rend présent l'Éternel comme Dieu libérateur. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. » Au verset 2 du chapitre 20. Et dans le texte du livre du Deutéronome qui est parallèle à celui-ci, il y a 2 décalogues dans les Écritures hébraïque, au chapitre 5 du Deutéronome, le sabbat est articulé non pas au repos de l'Éternel, mais à la libération. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main forte. Il y a un avenir parce qu'il y a libération. Il y a un avenir parce qu'il y a coupure, rupture, recul, écart d'avec ce qui oppresse, ce qui opprime, ce qui envahit, ce qui contraint et qui fait oublier la libération, la liberté, la vocation venue de l'Éternel. Le sabbat fait se souvenir que rien n'est écrit d'avance lorsqu'on se place, se replace dans la perspective de la libération et de la bénédiction. Mais sous la pression du futur, qui n'est pas l'avenir, sous la pression du futur et de sa fatalité, sous la pression conjointe à la fois de l'accélération et de l'immédiateté, on peut oublier qu'il y a un avenir et que ce qui contraint notre intériorité et notre être au monde ne nous définit pas. D'ailleurs, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas définis. Nous sommes appelés, c'est-à-dire indéfinis dans une parole de grâce inconditionnelle et qui n'est jamais retirée, une parole qui est vocation à vivre véritablement. Nous ne sommes pas définis par notre travail, tout aussi important, utile et productif soit-il. Il ne garantit pas notre dignité, notre valeur, qui repose dans la bonté de l'Éternel. Notre travail est une des formes de notre présence au monde, mais ce n'est pas la seule. Faire tout son travail pendant 6 jours et cesser de travailler le 7e, c'est une manière de donner corps, notre être au monde, à la libération de l'esclavage en posant une limite au travail et à la frénésie de nos activités. Et cela, non seulement pour celui ou celle qui travaille, mais aussi pour la terre sur laquelle nous travaillons et sur laquelle nous imprimons les traces de notre travail et de nos activités d'humains, quelles qu'elles soient. De même, nous ne sommes pas définis, constitués même par nos consommations, mais par un appel à cultiver nos relations dans la confiance, l'amour et l'espérance. Le sabbat offre ainsi un temps pour discerner, pour évaluer nos dépendances, nos possessions qui nous possèdent et les habitudes auxquelles nous ne réfléchissons plus. Il offre un temps pour renouveler notre perception des choses et des êtres par l'apprentissage et le réapprentissage de relations gratuites, non marchandes, non conditionnées. Il ne s'agit pas seulement de ne rien faire du tout toute la journée dans son canapé, au temps du sabbat, mais il s'agit d'être et de se reconnecter à la source d'être. Et c'est en cela, parce qu'il s'agit d'un temps de liberté, c'est en cela que le monde est renouvelé, dans ces temps de sabbat qui ouvrent l'espace de la liberté et qui donnent un rythme de vie au courant des activités quotidiennes, tout ce qui remplit le reste du temps. Jésus le Christ, à la synagogue de Nazareth, annonce la libération des captifs et aux aveugles le recouvrement de la vue. Se poser à nouveau dans notre existence personnelle, dans nos relations d'humains, d'humanité, dans notre présence commune au monde et sur la terre, s'y reposer en gratitude, en espérance, en responsabilité de présent et d'avenir, c'est ce que nous permet ce qu'offre le sabbat, et c'est son sens pour donner sens à notre agir et à nos manières d'être. C'est ainsi, et c'est le troisième point, c'est ainsi que le sabbat nous permet de faire place à tout le vivant sur la terre et aussi, donc, à ce qui permet la vie des vivants sur la terre et qui n'est pas seulement objet d'exploitation pour les humains. Les ressources de la terre que nous exploitons, parce que nous en avons aussi besoin, ne sont pas seulement ressources à notre disposition, sans quoi les dynamiques d'équilibre qui garantissent la vie de tous les vivants sont altérées. Avec le sabbat, il est question des limites. Des limites de l'activité humaine et aussi des limites des capacités et des ressources de la terre. Au sabbat de Dieu, au repos du septième jour, selon le récit de la Genèse, qui, je le rappelle, est un récit mythologique et pas un compte-rendu d'événements, au sabbat de Dieu répond le sabbat pour le peuple, la quatrième parole, et pour les animaux domestiques, dont la qualité de créature est ainsi reconnue et honorée. Et dans un autre livre de la Torah, le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible hébraïque, dans le livre du Lévitique, il y a également la prescription du sabbat de la terre. Laissez une septième année de jachère pour la terre après six années de culture et de récolte. Alors, si notre société n'est plus une société agricole, comme l'était celle de l'Antiquité, la quatrième parole de vie invite à se poser pour réfléchir à notre emprise sur la terre et les autres vivants qu'elle porte, et pour considérer que, tout humain que nous sommes, nous faisons complètement partie de cet ensemble extraordinaire sur lequel repose la parole de Dieu qui dit « cela est bon ». Nous ne sommes pas pleins de nous-mêmes. Et le sabbat dégage, dans la compréhension de soi et du monde, un espace vide, qui est en même temps un espace fructueux, parce qu'il est la place laissée pour tout ce qui n'est pas nous. Par exemple, il rend conscient de ces communs dont bénéficient tous les vivants, l'eau et l'air, par exemple. Il engage à accepter de ne pas tout avoir, de ne pas tout prendre. Il engage à résister à l'accumulation et à la convoitise. Et cette limite est vivifiante pour soi, pour l'humain et pour tous les vivants. L'humain, à l'image de Dieu, est capable de se limiter. Plutôt que de céder à la tentation de se prendre pour Dieu, enfin, pour une idée de Dieu, qui n'est pas l'éternel créateur, mais plutôt une divinité toute puissante et surtout remplie d'elle-même. Sabbat pour l'avenir et sabbat pour la terre sont profondément reliés l'un à l'autre dans la reconnaissance de l'éternel. Et la Bible hébraïque poursuit même avec la remise des dettes et la libération des esclaves hébreux lors d'un troisième sabbat, une année sabbatique. Et cette remise de dette, cette libération des esclaves, corrige ainsi les inégalités sociales et économiques qui se sont accumulées pendant les années précédentes. L'être humain à l'image de Dieu l'est aussi en faisant œuvre de libération envers celles et ceux qui ont été soumis à une situation d'oppression ou de pauvreté, et qui peuvent alors recommencer, commencer à nouveau. Et cela garantit la vie commune, en société, un équilibre où chacun retrouve une place correspondant à la dignité inaliénable de tout être humain. Le temps du sabbat, c'est un temps propice pour inventer, pour innover, des manières de faire qui rendent actuelles et réalisables la destination de l'humain vers la vie vivante. Jésus le Christ, à la synagogue de Nazareth, annonce une année de grâce. N'avons-nous pas encore à y appliquer la pensée, l'intelligence, notre créativité en portant un regard positif, baigné de gratitude et de bénédiction sur les vivants et sur la terre sur laquelle nous vivons tous. Alors pour conclure, et comme je le disais pour commencer, ce n'est plus le sabbat du septième jour qui est célébré dans les églises, mais le dimanche du huitième jour, un nouveau premier jour pour une nouvelle création, selon l'expression de l'apôtre Paul. Mais c'est aussi une célébration pour l'avenir. Pâques reprend la compréhension du sabbat libérateur, du sabbat qui ouvre du sens pour la vie offerte en partage. La résurrection de la vie, là où elle est empêchée, là où elle n'est plus. La libération des esclavages mortifères. Et aussi la louange où s'élargissent nos horizons et nos perspectives. Et la communion dans l'écoute et dans l'accueil du don de Dieu, parole, Christ, esprit. Tout cela nous repose et nous relance dans nos existences singulières, dans notre humanité commune, dans notre responsabilité d'être humain. Nous le faisons le dimanche, mais aussi dans d'autres occasions. Nous faisons ce pas de côté, hors de la course affolée du monde, des consommations insensées, des activismes effrénés, pour imprégner à nouveau nos choix, nos décisions, nos paroles, nos actes, les imprégner de grâce et de bénédiction, de beauté et de gratuité, de bonté et d'espérance. Oui, nous avons besoin de ce temps, ce sabbat, cette célébration de Pâques, ce temps où nos accélérations s'interrompent enfin, où nous pouvons retrouver le souffle, l'esprit de liberté et la conscience et l'âme qui nous relie à nous-mêmes et les uns aux autres, à tout ce qui nous entoure et à l'Éternel. Amen. Voici le moment de confesser la foi. Je vous invite à vous lever. À entendre et à vous associer, si vous le voulez, à cette confession de foi qui a été écrite par une théologienne allemande, Dorothée Soll, qui a beaucoup, qui était aussi à la fois féministe et écologiste et aussi une mystique. Je crois en Dieu qui veut l'amélioration de l'être humain. Je crois en Dieu qui n'a pas créé le monde comme un objet terminé, destiné à demeurer tel qu'il est. Je crois en Dieu qui ne gouverne pas selon des lois immuables et imprescriptibles, instituant des forts et des faibles, des savants et des ignorants. Je crois en Dieu qui veut l'amélioration de l'être vivant. Je crois en Jésus-Christ. Il a travaillé à la transformation de l'état des choses et il y a laissé sa vie. À son échelle, je mesure la petitesse de notre intelligence parce que nous ne vivons pas comme il vivait. J'ai peur quotidiennement qu'il soit mort pour rien quand nous l'enfouissons sous nos rites et sous nos conventions. Je crois en Jésus-Christ qui ressuscite dans notre vie afin que nous soyons libres à l'égard des préjugés et de l'orgueil, de la peur et de la haine. Je crois en l'Esprit que Jésus nous a laissé. Je crois à la communauté de tous les peuples et à notre responsabilité face à l'avenir de notre terre qui sera ce que nous en ferons, soit une vallée de larmes, soit une cité de Dieu. Amen. Asseyez-vous. Voici le moment des annonces et nous allons commencer par une annonce Église verte. Maintenant, tous les mois, il y aura, ce sera plutôt le deuxième dimanche du mois, une annonce Église verte. Quelque chose que la commission, alors d'ailleurs je vais vous dire qui est dans la commission, il y a Pierre-Charles et Lionel que vous avez vu, Zélie qui est là, Vanessa qui est redescendue. Voilà, et il y a aussi Gilbert et Micheline qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais qui, Gilbert est en communion avec nous au culte à Rouen et Micheline aussi en communion avec nous à l'assemblée de la CIMAD. Qui se tient ce week-end et auquel elle devait assister. Mais donc, cette commission Église verte va vous faire part régulièrement, une fois par mois, d'une annonce qui peut être très, très, dans des domaines très divers. Et aujourd'hui, c'est Lionel qui en a choisi une.
Oui, alors pour cette première information, je vais, en écho de la prédication de Dominique, vous dire un mot du sabbat numérique. Je ne vais pas vous asséner des chiffres sur l'impact grandissant sur le climat de la consommation d'énergie, des réseaux informatiques, de l'Internet, de la masse vertigineuse d'informations qui circulent. Non, un peu comme on veut le faire dans l'Église verte, on le prend du point de vue de l'autre bout, celui de notre mode de vie. En permanence, les réseaux sociaux nous appellent à échanger, nous émouvoir et surtout à ne pas manquer une information intéressante. De nouvelles applis, comme on dit, sortent tous les jours pour nous faciliter la vie quotidienne. Du coup, La plupart d'entre nous sont de plus en plus rivés à leur écran de téléphone mobile sur lequel on peut faire de plus en plus de choses. Plusieurs enquêtes et études récentes indiquent que le temps moyen passé devant un écran en France est de 32 heures par semaine, presque autant que la semaine de travail, et les 32 heures ne prennent pas en compte le temps passé au travail sur des écrans. C'est le temps personnel passé sur écran, 32 heures. Alors, depuis quelques années, dans certains cercles, a émergé l'idée d'observer une journée de sabbat numérique, une journée de pause, de temps en temps, tous les mois, ou même si on le peut, toutes les semaines, comme le sabbat biblique. Passer une journée sans écran, pour sortir quelques heures du torrent des informations, dont de toute façon on n'a pas la capacité de les absorber toutes, et de les mémoriser encore moins. Pour retrouver du temps, pour se reposer de cette attention permanente à l'événement, pour se réjouir, méditer ou s'émouvoir, en compagnie ou tout seul, ou simplement contempler la beauté du monde. Et en prime, éprouver la satisfaction de se dire qu'on peut s'en passer, qu'on n'est pas complètement addict. Et en même temps, contribuer modestement à diminuer notre consommation d'énergie collective. Alors, par plaisir, choisissons d'observer régulièrement un sabbat numérique.
Les autres annonces de ce dimanche, eh bien, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, comme tous les dimanches. Et dimanche prochain, donc, également. Dans les activités de la semaine, il y aura lundi 25 à 19h30 une réunion des moniteurs de l'école biblique qui prépare l'animation des prochaines séances. Il y aura également jeudi 28 à 12h30 la pause spirituelle, comme tous les jeudis, pour une heure de pause, voilà, un autre petit sabbat dans la semaine, une autre petite manière de se reposer en soi et avec d'autres dans la communion de l'esprit. Il y aura aussi samedi, alors il y a plusieurs événements. Il y aura d'abord le matin, à partir de 9h30 ici au foyer de l'âme, la journée du consistoire, c'est-à-dire des paroisses, de l'ensemble des paroisses qui se regroupent pour de temps en temps travailler ensemble, et qui sont une répartition géographique. Et donc ces paroisses se réuniront samedi 30 pour une matinée sur un thème de réflexion qui est cette année Église de témoins, Église multitudiniste. Voilà, il y a différentes manières de comprendre l'Église, de la vivre, et nous allons un peu en discuter, réfléchir dessus. C'est portes ouvertes, donc si cela vous intéresse, vous pouvez venir. Il y aura à partir de 12h30 un petit repas pour ceux qui le souhaitent, et là on est prié d'apporter quelque chose à partager. Voilà, comme les repas qu'on fait habituellement au foyer de l'âme. Samedi, c'est aussi le Festival protestant du livre, la deuxième édition. Vous avez sur la table au fond là-bas des flyers avec toutes les indications sur les heures, sur les animations qui sont proposées à ce Festival protestant du livre qui se tiendra à l'Institut protestant de théologie, boulevard Arago. Et puis enfin samedi, à partir alors de 17h50, il y aura le caté pour les jeunes de dernière année de catéchisme. Dimanche 1er, le culte sera animé avec les jeunes du catéchisme de cette année et il y aura également école biblique pour les plus jeunes et précatés. Le culte donc aura lieu, se tiendra à 10h30 comme d'habitude. Dimanche prochain, c'est le 1er octobre, c'est la reprise du cycle des cantates. Donc à 17h30 au temple, une cantate de Bach, j'ai complètement pas le numéro en tête, mais c'est pas grave, c'est affiché dans l'entrée, c'est aussi sur la page d'accueil du site. C'est la dernière année du cycle des cantates qui se tiennent au foyer de l'âme. Alors, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on aura fini au mois de juin, toutes les cantates de Bach auront été jouées à l'occasion de ce cycle de cantates au foyer de l'âme. Cela aura duré 24 ou 25 ans. Alors ça fera 24 ans. Donc voilà, il a fallu 24 ans pour jouer toutes les cantates de Bach. Et ce qui est prévu après, c'est de recommencer. Voilà. Donc, pour cette dernière saison, comme on dit, eh bien, rendez-vous dimanche 1er octobre à 17h30 au Temple. Et il semble que ce soit une saison particulièrement énergique et avec de grandes cantates, de grands ensembles musiciens. Alors, il y avait d'autres annonces. Alors, comme je vois Dominique déjà là, je vais lui laisser la parole tout de suite.
Merci, je crois que vous me voyez toutes les semaines en ce moment. Je ne sais pas si on peut observer un Shabbat dans le social. Une petite parenthèse, il y a 150 migrants mineurs isolés au parc de Belleville qui ont froid, qui ont faim. Bon. Ce n'est pas pour ça que je vous appelle, parce que ce n'est pas, pas l'arrondissement. Et on accueille donc nos migrants de Toulon, de Welcome Var. On a 5 accueils au mois de octobre. Alors, il faut encore déjà, les fidèles que je remercie se sont proposés, mais il y a besoin apparemment tout de même d'un hébergement fin octobre, là, le 24 et 25, d'un accompagnement le 5 octobre, et d'accompagnement, je pense, aussi entre le 9, 10, 11 et 12 octobre. Voilà. Vous venez nous voir avec Laure et Jérôme, qui sont engagés dans cette petite aventure, à la sortie du culte 5 minutes, si vous avez un peu de temps en octobre, pour accompagner à l'OFPRA, ou aller chercher de la gare de Lyon à l'hébergement, ou raccompagner de l'OFPRA ou de la CNDA. Il y a 2 accompagnements CNDA et 2 accompagnements OFPRA. CNDA, c'est plus facile, c'est la ligne 1, c'est le château de Vincennes, et parce que l'OFPRA, en ce moment, avec les problèmes de RER, il faut jongler entre le RER A, le RER D, le RER E. C'est casse-tête, pas facile. Il faut être jeune pour avoir son smartphone, pour le coup, en main, et changer d'itinéraire au dernier moment. Merci à tous et à toutes.
Merci. Je rappelle que cette activité de l'entraide du foyer de l'âme que coordonne Dominique est donc au bénéfice de migrants hébergés à Toulon par une autre association qui doivent venir à Paris pour des rendez-vous à l'OFPRA ou à la CNDA. Donc il y a besoin d'hébergement et d'accompagnement. On n'est pas obligé de faire les 2. Ouais, voilà. Donc voilà, il faut s'adresser à Dominique. Je vous annonce aussi un petit peu en avance que Hervé Oléon Perrin, de nos amis du Foyer de l'âme, organise une nouvelle visite, c'est la deuxième, du Père Lachaise protestant. Il avait organisé une première visite en 2023 qui a eu du succès, puis des personnes n'ont pas pu y aller, donc ont réclamé. Et gentiment, Hervé organise une deuxième visite du Père Lachaise protestant. C'est vraiment très intéressant comme circuit, et ça aura lieu le 14 octobre prochain, c'est un samedi après-midi. Et si vous êtes intéressé, merci de me le signaler en m'envoyant un mail. Dès maintenant, si vous voulez, mais réservez, c'est la date du 14 octobre à partir de 14h, et puis nous vous enverrons tous les renseignements pour l'heure précise et le lieu de rendez-vous. Et je rappelle aussi qu'il y aura organisé par Fabrice Calais une visite de l'exposition Van Gogh au musée d'Orsay, se tiendra le jeudi 19 à 17h30. Une visite donc commentée par Fabrice Calais, et que pour cela il faudra également s'inscrire, mais uniquement à partir du 1er octobre, s'inscrire par mail. Oui, il faut que je signale aussi que, on le rappellera plusieurs fois pour que cela soit bien connu, que les prédications du Foyer de l'âme peuvent être écoutées sur podcast, sur des plateformes Lesquels ? Deezer et Spotify. Merci Thomas. Et puis également que, grâce à Thomas, les derniers cultes sont aussi visibles sur la chaîne YouTube du Foyer de l'âme, ce qui est plus pratique que de passer par Facebook. Donc, vous pouvez aussi recommander tous ces différents médias sur lesquels les cultes du Foyer de l'âme peuvent être vus, écoutés ou lus, puisque les prédications sont également à lire sur le site. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Tu as la date. Il y a une affiche, je crois, dans l'entrée pour la journée d'évangile, les deux journées d'évangile et liberté qui se tiennent à 7. 21 et 22 octobre, oui. À 7. Oui. Ça, c'est au Lazaret à 7. Et il faut bien sûr s'inscrire. Vous avez les renseignements sur l'affiche. Et je crois qu'il y a aussi des dépliants sur la table du fond. Voilà. Alors, s'il n'y a plus d'annonce, eh bien, je vous invite à nous rassembler à la fois dans le geste de l'offrande, que ce soit vraiment en joie, en confiance et en espérance. Le panier connecté doit être en service. Voilà, il est aussi en service pour ceux qui ont une carte bancaire. Et puis, pendant l'offrande, nous allons chanter et chanter le cantique 256. Célébrons Dieu notre Père. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Je vous invite à nous recueillir chacun et ensemble dans la prière d'intercession que Zélie a écrite et dans laquelle elle va nous conduire.
Éternel notre Dieu, tu nous as donné le monde en partage, or nous ne nous sommes pas montrés à la hauteur. Donne-nous la force d'en prendre soin et d'en faire un monde plus juste. Donne-nous aujourd'hui le courage de regarder en face les traces que l'action humaine laisse sur la création et les conséquences dramatiques sur les vies de nos frères et nos sœurs. Nous portons dans nos prières notamment les personnes ayant souffert ou perdu des proches durant cet été, lors des inondations en Libye, en Inde, en Chine, en Scandinavie, en Turquie et en Italie, ou lors des méga-feux au Canada, en Espagne, en Grèce, en Sicile ou en Afrique du Nord. Donne-nous la force de la compassion pour combattre cette injustice où celles et ceux qui subissent de plein fouet les impacts des changements climatiques sont bien souvent celles et ceux qui en sont le moins responsables. Fais-nous entrer en conversion écologique, non seulement de façon individuelle, mais aussi structurelle et collective. Que ce commandement central de l'enseignement de Jésus-Christ, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », soit au cœur de ce changement. Aide-nous à agir dès aujourd'hui, dans nos paroisses, nos églises, mais aussi avec nos frères et nos sœurs, croyantes ou non. Permets que ce regard juste sur l'état actuel du monde nous pousse à porter ton témoignage pour la construction d'un monde plus juste, plus solidaire, plus proche du royaume de Dieu, car un monde ravagé par les changements climatiques ne peut être un monde de paix et de justice. Fais que nous trouvions de la joie dans cette lutte quotidienne et que nous puissions y porter ton message d'amour.
Et c'est un... Non, Nicole. Parce que nous allons nous rassembler aussi dans la prière que Jésus le Christ a enseignée à ses disciples, en disant ensemble à voix haute ou dans le secret de notre cœur, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Thank you.
Nous arrivons au terme de cette célébration. Je vous invite à entendre pour exhortation un extrait, un des chapitres de la règle des diaconesses de Reuilly que Vanessa va nous dire.
Contemplation. Le contraire de la contemplation, ce n'est pas l'action, mais le souci qui étouffe la parole et appesantit l'intelligence. La contemplation est un sabbat du cœur, un repos profond, une non-préoccupation, un accès vers la liberté intérieure. Elle ne consiste pas à ne rien faire, mais à faire toute chose devant celui qui appelle à être ce qui n'est pas. La contemplation est moins un regard fermé au sensible et au réel qu'un regard nouveau qui accueille le réel dans le milieu purificateur de l'Esprit Saint. La contemplation se nourrit d'action, d'histoire sainte et d'espérance. D'action, car les pauvres sont toujours avec nous comme d'autres Christ. D'histoire, car l'histoire atteste de l'œuvre de Dieu. Et d'espérance, car ce qui est inachevé attend sa plénitude. Seule une contemplation filiale et admirative de Dieu peut assumer le désespoir humain. Dans ce monde en Genèse, l'histoire de Dieu demeure et le regard contemplatif en discerne la beauté.
Nous nous levons pour chanter le dernier spontané avant la bénédiction. Bénédiction venue d'Irlande qui nous enverra sur les chemins de la semaine. Une bénédiction de vent, de soleil, de pluie, de chant. Mais il faut bien du vent, du soleil, de la pluie pour les chants de nos vies, même si nous sommes en ville. Mon frère, ma sœur, que la route s'ouvre à ton approche, que le vent souffle toujours dans ton dos, que le soleil inonde et réchauffe ton visage, que la pluie ruisselle dans tes champs, que jusqu'à la prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de ses mains. Amen.